Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Tout autre chose. Les migrants, les réfugiés, vous en avez beaucoup entendu parler, mais bien souvent de manière abstraite. Ce qui va suivre est complètement différent. Deux regards sur la situation des réfugiés, deux regards bouleversants. Le vôtre, tout d'abord, Delphine Coulin, bonjour. Vous publiez un roman, Une fille dans la jungle. On parlera en quelque sorte du point d'arrivée, une impasse, diraient certains, puisqu'il est question de Calais et de ces jeunes, très jeunes, de ces enfants qui sont là-bas, et puis également le regard de Raphaël Kraft. Bonjour Raphaël Kraft, vous êtes journaliste indépendant, Bonjour. Vous êtes collaborateur régulier de Radio France, et vous venez avec ce qu'on appelle des sons dans le jargon, avec une série de reportages qui seront diffusés dans LSD du 2 au 5 octobre sur l'antenne donc de France Culture. On a choisi des extraits parce que lorsqu'on a entendu ce reportage, on s'est dit qu'il fallait le diffuser dans les matins. Vous êtes monté à bord d'un bateau qui s'appelle l'Aquarius. Présentez-nous l'Aquarius, Raphaël.
Alors, c'est un bateau qui est porte-pavillon de Gibraltar, qui est affrété par SOS Méditerranée, donc qui est une ONG française, européenne, et qui est aidée par Médecins Sans Frontières Hollande. Alors, SOS Méditerranée, c'est une équipe d'une 10-15 de personnes qui s'occupe de toute la partie technique du sauvetage, et MSF s'occupe, elle, de la partie médicale, parce que les personnes qui sont sauvées en mer sont généralement et très souvent dans un état médical et psychologique extrêmement critique. Et donc, lorsqu'ils arrivent à bord du bateau, il faut pouvoir les prendre en charge. Il y a une petite clinique à bord. C'est un bateau d'un peu plus de 70 mètres de long. J'ai embarqué à Catane le dimanche 10 septembre. Et à partir de Catane, donc en Sicile, le bateau se rend dans ce qu'on appelle la zone de sauvetage, la SAR, la région de Search and Rescue, qui est délimitée par une convention, qui est la convention du sauvetage en mer, qui a été signée en 1979 et régie par le droit de la mer de l'ONU. Donc on met une journée et demie, deux jours, pour arriver sur la zone. En l'occurrence, il y avait une grosse tempête. Donc tout l'équipage était malade. Et lorsqu'on arrive sur la zone, eh bien... On attend les ordres du MRCC, le centre de coordination du sauvetage en mer qui est basé à Rome, qui nous dit où aller.
Je vous propose, Raphaël, d'écouter un premier extrait de votre reportage. On va écouter Max, qui est coordinateur de l'équipe de sauvetage en mer, donc sur l'Aquarius. Il explique comment se passe un sauvetage.
En général, ça se passe comme ça. Le MRCC, le Centre de coordination du sauvetage en mer, basé à Rome, nous passe un coup de fil. Ils nous disent « Eh, il y a une embarcation pneumatique en détresse à telle position ». Nous, on se rend sur la position, on fait des observations depuis la passerelle pour voir si on peut établir un contact visuel avec notre cible. Une fois qu'on l'a localisé, on s'en approche. À une distance raisonnable de sécurité, plusieurs centaines de mètres, on arrête le bateau et on met nos deux bateaux de sauvetage à l'eau. Une fois qu'on arrive sur zone, je montre les gilets de sauvetage à tout le monde. Je leur demande de d'abord les faire passer aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants, mais également aux personnes les plus éloignées sur le bateau. Ça leur donne quelque chose à faire et le sentiment d'être impliqué dans le sauvetage. Soudain, ils se sentent utiles à quelque chose, et ça atténue un peu leur panique.
Raphaël, donc vous nous avez dit que la mer était démontée. On imagine ce que c'est que d'être sur un bateau pneumatique lorsque la mer est dans cet état-là.
Alors, ils ne partent pas, les bateaux pneumatiques, lorsque la mer est démontée, justement. Lorsque nous arrivons sur la zone de sauvetage, la mer s'est calmée, et c'est alors que les bateaux pneumatiques peuvent quitter les plages, parce qu'ils partent de plages, et donc s'il y a des vagues, vous avez des bateaux pneumatiques d'une douzaine de mètres de long, sur lesquels sont entassés entre 100 et 200 personnes, donc on a souvent plus de 10 personnes au mètre carré, et pour passer la barre des vagues, on peut pas, quoi. Donc il faut effectivement que le temps soit meilleur.
Ça coûte combien de faire le passage ?
Alors les prix sont très variables parce que les passeurs et les communautés sont divisées. Vous avez par exemple les Bangladeshis qui sont à tel endroit dans un même camp. Vous avez les Soudanais dans un tel autre endroit. Et les prix varient souvent en fonction des nationalités et aussi varient pour celui qui va conduire le bateau. Là, il n'y a pas de passeur sur ces embarcations automatiques. C'est une personne qui est désignée, souvent de force. On lui met un pistolet sur la tempe pour lui dire que c'est toi qui va conduire. On lui explique très brièvement comment faire marcher ce bateau, comment on démarre le moteur.
Donc
on lui donne une
boussole.
Donc ce sont
des gens qui ne savent pas naviguer.
Voilà. Mais sinon, ce sont des passages qui coûtent entre 500, 1000, 1500, 2000 euros.
Et alors, la logique, c'est quoi ? Ils se disent finalement, le bateau va être d'une manière ou d'une autre repêché par des navires de sauvetage en mer. Ils se disent rien, c'est-à-dire que finalement, on empoche l'argent de ces réfugiés et puis on continue notre business.
Alors, il faut savoir que le sauvetage en mer, effectué par les ONG, représente à peu près 30 à 40% de tous les sauvetages. Le centre de coordination maritime de Rome, lorsqu'il apprend qu'une embarcation est en détresse, va s'adresser au navire qui est le plus proche, selon ses configurations également. Et donc, ce peut être un navire marchand, un pétrolier, ce peut être également des navires militaires de Sofia, donc de l'Union européenne. Et là, ils sont dirigés vers le bateau. Enfin, les passeurs, pour que il continue à avoir de la clientèle, effectivement, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait quelques passages qui réussissent pour appâter le client. C'est ainsi que souvent, les personnes qui ont réussi à atteindre l'Italie sont appelées par téléphone par les passeurs pour prouver que ceux-ci sont passés. En même temps, il faut faire attention. La Libye, c'est un pays où règne une atmosphère où se mêle le concentrationnaire et le mafieux, et il n'est pas difficile de convaincre des personnes de les mettre sur des bateaux pour tenter l'Italie, parce que c'est l'enfer, la Libye, et donc les gens veulent partir absolument.
C'est aussi l'enfer sur mer. On continue à écouter Max, que vous avez interviewé, donc Raphaël, qui est donc ce coordinateur de l'équipe de sauvetage en mer sur l'Aquarius, et il explique en détail pourquoi ces bateaux font naufrage et comment les migrants meurent en mer.
Basically, people out here die because
généralement les gens meurent parce qu'ils se font écraser par les autres.
Largely, I mean, the boats sink and
lorsque le bateau coule, les bidons d'essence commencent par se renverser.
Large, maybe 80 gallon,
on parle de bidons de 300 litres.
Barrels, and they tip. And when the barrels tip, because the water levels
et parce que le niveau d'eau dans l'embarcation augmente, les bidons se renversent et l'essence se mélange à l'eau salée. Et avec ce mélange, le premier effet, c'est que les gens commencent à devenir stone, parce qu'ils respirent les émanations de centaines de litres de fuel. Et donc les gens deviennent dingues. Et après la première heure, ça commence à gratter leur peau. Et après plusieurs heures, ça les brûle. Et après de plus longues heures encore, la peau de vos jambes commence à partir. La peau du dos, la peau des bras, et tout votre corps qui est en contact avec ce mélange. Et en même temps, le fond du bateau se rompt. Et donc les deux boudins latéraux se rapprochent, alors qu'il y a déjà 10 personnes au mètre carré. Imaginez ce qui se passe lorsqu'ils se retrouvent compressés. Tout ça alors que les gens ont de l'eau jusqu'à la poitrine.
Des conditions donc épouvantables, Raphaël Kraft.
Oui, lorsque les survivants parviennent à monter sur l'Aquarius, on observe des morsures au niveau des jambes, parce que les personnes qui sont coincées au fond du bateau tentent de survivre pour ne pas se noyer, et donc mordent leurs compatriotes ou leurs compagnons d'infortune.
Alors, il faut dire que le business des passeurs est un business extrêmement rentable. Vous avez parlé donc pour la Libye de mélange entre le concentrationnaire et le mafieux. Si on parle du mafieux, on a affaire à des commerces qui sont plus lucratifs, dit-on, que le commerce de drogue.
Alors, les passeurs, généralement, tout ce qui est trafic d'êtres humains, de drogue, d'armes, mais également et surtout de pétrole, tout se confond. Parce que généralement, quand on est passeur, on est également contrebandier. Et effectivement, c'est très lucratif. Lorsqu'une personne quitte Agadez, au Niger, donc il paye, il traverse le désert dans des conditions effroyables. Lorsqu'il arrive à Sebha, pour ne citer que cette oasis du sud-ouest libyen, la personne est kidnappée. Donc, et ensuite elle est rançonnée, c'est-à-dire que les kidnappeurs téléphonent aux familles, généralement il y a un viol qui est commis ou des coups de feu qui sont tirés, des simulations d'assassinats qui sont faits au téléphone pour convaincre la famille d'être payée. Ensuite la route se poursuit où on est vendu à nouveau à un passeur. Si vous êtes arrêté par la marine libyenne, vous êtes renvoyé en prison qui est de mèche avec les passeurs. Les gardes-côtes libyens sont de mèche également avec le gouvernement internationalement reconnu. Et oui, c'est un business.
On va entendre justement un Camerounais de 31 ans, Soukley, qui a été secouru et qui raconte ce qu'il a enduré avec ses passeurs.
J'ai été kidnappé le 22 juin. Les kidnappeurs ont demandé une rançon de plus de 500 euros. Parce qu'en euros, le 500 euros, ça fait 350 000 francs CFA chez nous. La voiture qui nous transportait, le chauffeur, il est parti nous vendre quelque part. On lui a remis de l'argent. Maintenant, il fallait que nous aussi, nous payions de l'argent pour pouvoir arriver à notre destination. Le monsieur qui était censé nous accueillir à Zabrata, on l'a appelé plusieurs fois. Il nous a fait savoir qu'il devait faire de son mieux pour nous sortir de là. Mais là-bas, c'était notre calvaire. Il y a des filles, des femmes, des filles qui se faisaient violer devant tout le monde.
Là où vous avez été kidnappé, c'est ça?
Oui, là où on a été kidnappé. Des femmes se faisaient violer devant tout le monde. Et les kidnappeurs, ils vous donnent le téléphone, vous appelez votre famille. Pendant que vous causez avec votre famille, ils tirent des coups de feu en l'air pour faire savoir à votre famille que s'ils ne donnent pas de l'argent, ils vont vous descendre.
Un extrait de ce reportage que vous avez fait à la fois sur l'Aquarius et auprès donc de ces réfugiés qui ont tenté le passage. Le reportage de Soukley qu'on vient d'entendre, il est épouvantable pour dire les choses. Il est représentatif de ce que ces réfugiés connaissent.
Oui, j'ai passé mon temps, lorsque les personnes sont arrivées sur l'Aquarius, à recueillir le maximum de témoignages et constater qu'effectivement, le kidnapping, ça ne concerne pas seulement les migrants d'origine subsaharienne, ça concerne également les Libyens, ça concerne les personnes qui vivent en Libye depuis de très nombreuses années. L'Aquarius, la semaine dernière, a opéré un sauvetage de 21 personnes, elles étaient toutes libyennes. Et pourquoi quittaient-elles la Libye, notamment pour les questions de kidnapping? Donc ça rapporte beaucoup d'argent, la chair humaine en quelque sorte en Libye, puisque lorsqu'on vend un migrant, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir utiliser pour des travaux forcés, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir utiliser pour faire des travaux de déminage par exemple sur les champs de pétrole, puisque bon bah ça coûte pas cher et puis s'il meurt, c'est pas grave.
Mais alors Soukley par exemple, il le savait, il savait qu'il s'exposait à ce risque, ou alors est-ce que ces migrants payent les passeurs et ensuite se rendent compte qu'ils sont pris au piège?
C'est la grande inconnue. Il y a une enquête qui a été faite au mois d'août, notamment sur les mineurs isolés par une ONG française et un centre de recherche suisse, qui montre que pour 50% de ces mineurs, l'objectif, ça n'est pas l'Europe, mais c'est un pays voisin, l'Algérie et surtout la Libye. Et au grand étonnement de ces enquêteurs, on constate que les personnes n'ont pas conscience de ce qui se passe en Libye.
Ils connaissent pas la situation.
Non, ils ne connaissent pas la situation. Et il faut aussi ne pas oublier que Muammar Kadhafi a fait une opération d'influence considérable auprès de l'Afrique subsaharienne et que aujourd'hui la Libye demeure encore un Eldorado dans l'idée de beaucoup de personnes. Et donc il faut bien comprendre que beaucoup des personnes que l'on rencontre sur l'Aquarius, ce ne sont pas des gens qui fuient leur pays pour aller en Europe, ce sont des gens qui fuient leur pays pour aller en Libye et qui aujourd'hui fuient la Libye.
Raphaël Kraft, on a pu lire aussi des choses, par exemple ce matin dans le Figaro, sur à la fois les liens entre les passeurs, les pays européens. On dit que l'Italie financerait des passeurs. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, il y a une enquête qui a été faite par l'agence AP, qui a été corroborée par Reuters, reprise par un site internet spécialisé sur le Moyen-Orient, qui effectivement montre que l'Italie négocie avec des milices de la région de Tripoli pour leur donner de l'argent pour qu'ils retiennent les migrants. Après,
c'est légal.
Non, ça n'est pas
non,
légal.
Non, parce qu'il faut, dire les choses. C'est-à-dire quand on découvre qu'un pays européen paye des milices, donc là, en l'occurrence, à Libratta, qui est une zone qui est dans le chaos et l'anarchie la plus complète, avec des tribus qui se font la guerre.
L'Europe ne paye pas seulement des milices. L'Europe finance des gardes-côtes libyens qui sont de mèche avec les passeurs. Et ce ne sont pas des militants, des activistes ou des ONG qui le disent. C'est le ministère allemand des affaires étrangères, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, l'Europe légitime des pratiques unanimement dénoncées par les organisations internationales et dénoncées par elle-même. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, une victoire des ministères de l'Intérieur sur les ministères des Affaires étrangères aujourd'hui, sur la question de l'externalisation de la question migratoire.
Mais alors ça peut-être que...
Pardon, mais c'est vrai qu'il a été même... c'est avéré que les gouvernements envisageaient des accords avec la Libye, comme on a eu des accords avec la Turquie et encore avant avec Khartoum, où on sait très bien que externaliser la politique d'asile auprès de Khartoum comme auprès de la Turquie, c'est déjà assez criminel et on va un cran plus loin en essayant de signer des accords avec un gouvernement mafieux en Libye.
Un gouvernement ou des gouvernements,
des puisque gouvernements
on n'a même pas affaire à un interlocuteur unique. Peut-être que les journalistes n'ont pas suffisamment fait leur travail en dénonçant cette situation. Peut-être qu'il faudrait le dire plus fort d'ailleurs.
Vous savez, c'est très compliqué d'aller en Libye. Parce que la situation sécuritaire est extrêmement difficile. C'est très compliqué d'aller dans des pays comme l'Érythrée, comme le Soudan. Oui, c'est difficile. Après, l'Aquarius, on peut y aller. Il y a toujours 4 ou 5 journalistes à bord et j'invite vivement les confrères à s'y rendre parce que c'est vraiment une bonne clé de compréhension du drame qui se joue en Méditerranée et ici en Europe.
Et j'invite nos auditeurs à écouter à partir de 8h20 les autres extraits de reportage et puis on va parler d'Elphine Coulin avec vous de l'autre bout de la chaîne, ce qui se passe lorsque ces réfugiés, certains d'entre eux, parviennent à arriver à Calais.